Chaque prince qui meurt,
à ceux qui ne l'avaient pas vu durant les dernières années, combien Monseigneur de Valois paraissait changé. D'abord, on avait l'habitude qu'il fût toujours coiffé, soit d'une grande couronne scintillante de pierreries, les jours d'apparat, soit d'un chaperon de velours brodé dont l'immense crête dentelée lui retombait sur l'épaule, ou encore d'un de ses bonnets à cercle d'or qu'il portait en appartement. Pour la première fois, il se montrait en cheveux, des cheveux blonds mélangés de blanc, auxquels l'âge avait donné une couleur délavée, dont la maladie avait défrisé les rouleaux et qui pendaient sans vie le long des joues sur les coussins. L'amaigrissement chez cet homme naguère gras et sanguin était impressionnant. Mais moins toutefois que l'immobilité contractée d'une moitié du visage, que la bouche un peu tordue dont un serviteur essuyait régulièrement la salive, moins impressionnant que la fixité éteinte du regard. Les draps brochés d'or, les courtines bleues semées de fleurs de lys qui, drapées comme un dais, surmontaient le chevet, ne faisaient qu'accuser la déchéance physique du moribond. Et lui-même, avant de recevoir tout ce monde qui se pressait dans sa chambre, avait demandé un miroir, et il avait un moment étudié ce visage qui impressionnait si fort, 2 mois plus tôt, les peuples et les rois. Que lui importait à présent le prestige, la puissance? Où étaient donc les ambitions qu'il avait si longtemps poursuivies? Que signifiait cette satisfaction si vivace naguère de marcher toujours le front levé entre des fronts baissés, depuis que sous ce front s'était produit ce grand éclatement, ce grand basculement de tout? Et cette main sur laquelle serviteurs, écuyers et vassaux se jetaient pour en baiser le dos et la paume, qu'était donc cette main morte le long de lui-même? Et l'autre main, qu'il commandait encore, dont il se servirait tout à l'heure une dernière fois pour signer le testament qu'il allait dicter? Si une main gauche voulait bien se prêter à tracer les signes de l'écriture, cette main lui appartenait-elle davantage que le cachet gravé dont il scellait ses ordres et qu'on ferait glisser de son doigt après qu'il serait mort? Rien ne lui avait-il jamais appartenu? La jambe droite, totalement inerte, semblait lui avoir été déjà reprise. Dans sa poitrine, par moments, se produisait comme un vide de gouffre. L'homme est une unité pesante qui agit sur les autres hommes et transforme le monde. Et puis soudain, l'unité se désagrège, se délie, et qu'est-ce alors que le monde? Et que sont les autres? L'important en cette heure pour Monseigneur de Valois, ce n'était plus les titres, les possessions, les couronnes, les royaumes, les décisions du pouvoir, la primauté de sa personne parmi les vivants. Les emblèmes de son lignage, les acquisitions de sa fortune, même les descendants de son sang qu'il voyait autour de lui assemblés, tout cela pour lui avait perdu valeur essentielle. L'important, c'était l'air de septembre, les feuillages encore verts avec déjà quelques rougissures et qu'il apercevait par les fenêtres ouvertes, mais l'air surtout, l'air qu'il aspirait avec difficulté et qui allait s'engloutir dans cet abîme qu'il portait au fond de la poitrine. Tant qu'il sentirait l'air pénétrer dans sa gorge, le monde continuerait d'exister avec lui en son centre, mais un centre fragile, pareil à la fin de la flamme d'un cierge. Ensuite, tout cesserait d'être, ou plutôt tout continuerait, mais dans l'ombre totale et l'effrayant silence, comme une cathédrale existe quand le dernier cierge s'y est éteint. Valois se rappelait les grands trépas de sa famille. Il réentendait les paroles de son frère Philippe le Bel. « Regardez ce que vaut le monde, voici le roi de France !» Il se souvenait des mots de son neveu Philippe le Long. « Voyez votre souverain seigneur, il n'est nul d'entre vous le plus pauvre fut-il, avec qui je ne voudrais échanger mon sort !» Il avait entendu ces phrases-là sans les comprendre. Voilà donc ce qu'avaient éprouvé les princes, ses parents, au moment de passer dans la tombe. Il n'existait pas d'autres mots pour le dire, et ceux qui avaient encore du temps à vivre étaient impuissants à le saisir. Chaque homme qui meurt est le plus pauvre homme de l'univers. Et quand tout serait éteint, dissous, délié, quand la cathédrale serait emplie d'ombre, qu'allait-il découvrir, ce très pauvre homme de l'autre côté? Trouverait-il ce que lui avaient appris les enseignements de la religion? Mais qu'étaient-ils, ces enseignements, sinon d'immenses, d'angoissantes incertitudes? Serait-il traduit devant un tribunal? Quel était le visage du juge? Et tous les gestes de la vie, en quelle balance seraient-ils pesés? Quelle peine peut être infligée à ce qui n'est plus? Le châtiment? Quel châtiment? Le châtiment consiste peut-être à conserver la conscience claire au moment de franchir le mur d'ombre. Enguerrand de Marigny avait eu lui aussi, Charles de Valois ne pouvait se distraire d'y penser, la conscience claire, la conscience encore plus claire d'un homme en pleine santé, en pleine force, arraché à la vie non point par la rupture de quelques rouages secrets de l'être, mais par le vouloir d'autrui. Non pas la dernière lueur du cierge, mais toutes les flammes soufflées d'un coup. Les maréchaux, les dignitaires, les grands officiers qui avaient accompagné Marigny jusqu'au gibet, les mêmes ou leurs successeurs dans les mêmes charges, étaient là, en ce moment, autour de lui, emplissant toute la chambre, débordant dans la pièce voisine au-delà de la porte, et avec les mêmes regards d'homme conduisant un des leurs à la dernière pulsation de son cœur, étranger à la fin qu'il guette, et tout entier dans un avenir dont le condamné est éliminé. Ah, comme on donnerait toutes les couronnes de Byzance, tous les trônes d'Allemagne, tous les sceptres et tout l'or des rançons pour un regard, un seul, où l'on ne se sente pas éliminé. Du chagrin, de la compassion, du regret, de l'effroi et les émotions du souvenir, on rencontrerait tout cela dans le cercle Dieu de toutes couleurs qui entourait un lit de prince mourant. Mais chacun de ces ressentiments n'était qu'une preuve de l'élimination.